Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Galère et vous allez passer une heure d'émission avec nous sur Ecoforum. Vous pouvez nous prendre l'antenne grâce à notre numéro de téléphone 04 91 08 28 10. On va parler d'effondrement, c'est la deuxième émission d'un triptyque organisé grâce à Théo. Bonsoir Théo.
Bonsoir.
Alors, on va avoir un invité qui est représentant de trois associations, Andrastia, Instinction Rébellion et Comité Éthique, c'est bien ça? Alors, bonsoir Théo.
Bonsoir.
Et oui, c'est un deuxième Théo.
C'est ça. Pour Comité Éthique, c'est plus un projet personnel porté en dehors. Ce n'est pas un mouvement militant sur l'effondrement. Hein. Non, c'est plutôt Andrastia, Extinction Rébellion et DGR, Dick Green Résistance plutôt. Et je ne les représente pas, puisqu'aujourd'hui, je ne parle pas en leur nom, mais plus pour en faire partie et côtoyer ces milieux, je vais tenter d'expliquer les différentes positions de chacun.
Voilà, on a dégrossi le sujet la semaine dernière. On va quand même redonner une petite définition de ta part de l'effondrement. Mais l'émission, ça va être surtout la lutte et quelle action on peut entreprendre. Alors, qu'est-ce que l'effondrement pour toi?
Alors, un effondrement, c'est quelque chose qui est présent. Ce n'est pas quelque chose à venir. Et c'est une situation dans laquelle les modes de vie et tout ce dont on peut attendre d'un système changent radicalement et dont on est obligé finalement de pallier, de changer de vie. Parce que aujourd'hui, alors pour notre mode occidental et européen, je dirais pour nous-mêmes français, ce serait un effondrement, ne plus pouvoir compter sur les systèmes de l'État, le système social, le système sécuritaire, de pouvoir évoluer dans la rue en sécurité, de pouvoir s'approvisionner en nourriture, en eau, de pouvoir pallier aux besoins, je dirais, de la vie. Théo me parlait tout à l'heure en off de la pyramide de Maslow, mais je pense que les premiers besoins primaires de l'homme qui sont tout en bas de la pyramide de Maslow, un effondrement, ce serait de se questionner pour les obtenir. C'est ce que d'autres populations vivent déjà aujourd'hui et que nous, on n'a pas encore ressenti parce que je pense qu'on ne le vit pas encore pleinement, cet effondrement.
Mais c'est des personnes qui le vivent actuellement, elles l'ont toujours vécu, j'ai envie de dire, c'est des civilisations, c'est pas nouveau, les pays d'Afrique qui sont en grande pauvreté, ont toujours été en grande pauvreté.
Je ne suis pas sûr. Quand on parle de la corne de l'Afrique qui était la corne d'abondance du monde et qui à l'époque était plutôt un lieu ressource du monde, aujourd'hui, l'Afrique n'est plus ça, donc je pense pas.
En tant que berceau.
Ouais, je pense que l'effondrement a lieu et qui, alors c'est peut-être pas vrai pour tous les coins du monde, mais en tout cas, si on prend l'Afrique en référence, comme dit, elle a toujours été pauvre. Non.
Depuis quelques siècles, en fait. Depuis quelques siècles.
Et du coup, en fait, ce que tu fais, c'est tu nous dis qu'il y a une différence entre un effondrement vu d'un occidental. Un effondrement vu des gens qu'on dit de l'hémisphère sud, c'est-à-dire des pays moins développés.
Et même pour aller plus loin, qui doit être vécu par toute cette faune et cette flore qui ne parle pas. C'est-à-dire qu'effectivement, l'effondrement, nous, encore une fois, je reviens sur occidental, blanc, français, européen, l'effondrement pour nous, ça ne représente pas grand-chose qu'un récit et que quelque chose qu'on peut voir à travers des chiffres, des rapports scientifiques et des alertes qui datent depuis bien longtemps. Tu le citais dans l'émission précédente, depuis 72 avec le rapport Meadows, pour être un peu grossier. Mais pour d'autres populations, le déplacement climatique, ça existe déjà. L'approvisionnement en eau et l'approvisionnement difficile en eau, ça existe déjà. 80% des insectes aujourd'hui en France, si on veut parler que de la France, ont disparu. 30% des oiseaux. Je ne suis pas sûr que si ça avait parlé, il ne parlerait pas d'effondrement, en tout cas. Donc, on est en retard par rapport à ce vécu de l'effondrement parce que notre société technologique, industrielle, qui nous apporte tout ce qui nous permet de finalement être au confort, nous sauvegarde de cette difficulté-là. Mais d'autres la vivent déjà depuis bien bien longtemps et il serait bien curieux pour eux de leur dire que l'effondrement est à venir et qu'on pourrait l'éviter.
Il est à l'heure actuelle.
Oui, il est à l'heure actuelle et je pense que c'est juste une représentation de l'effondrement qui est différente selon de l'endroit duquel on se place et de la projection qu'on peut se faire de l'avenir.
Et si on reste sur ce même mode de vie, c'est quoi l'évolution de la Terre ?
Alors la question est intéressante, d'autant qu'il y a une vidéo qui circule sur YouTube depuis très peu de temps, qui est portée par Clément Montfort, et cette web-série qui s'appelle Next, saison 2, épisode 4 pour être précis, où Arthur Keller, qui est un représentant de l'association Adrastia, pose les différentes vues de l'esprit sur l'effondrement et quelles sont les différentes possibilités, en fait, comment on peut voir la chose. Et il prend une courbe qu'on appelle une courbe exponentielle, c'est ça, hein, pour expliquer que notre mode de vie, c'est doubler tous les X données de temps, à la fois la production industrielle, mais aussi la production de déchets, à la fois la pollution, et enfin, la courbe exponentielle, c'est le principe de doubler tous les X temps un phénomène. Et aujourd'hui, si on parle d'écologie, de pollution, de production, même de démographie, on est dans une courbe exponentielle. Et donc, du coup, toute la question est de savoir où est-ce qu'on place la limite, le seuil de dépassement. Est-ce qu'il est encore à venir ou est-ce qu'on l'a déjà dépassé? Est-ce que ce seuil, il est modulable? Est-ce que la technologie qu'ont les humains pour évoluer vont permettre de déplacer ce seuil de dépassement? En gros, c'est comme Arthur Keller le dit bien, je ne fais que le plagier hein, dans sa vidéo, mais il explique bien que le jour où on a découvert le pétrole, on a repoussé les limites hein, du possible. Donc on a régulièrement repoussé les limites. Seulement, le constat aujourd'hui, c'est que le seuil de dépassement, j'allais dire on le fait, non, on ne le fait pas, mais chaque année, on dit, tiens, aujourd'hui, on a atteint le seuil de dépassement de ce que la planète peut fournir en une année, ça peut régénérer. Et ce jour-là, aujourd'hui, on le dit, il est annoncé aux infos dès 7h du matin sur la radio concurrente pour dire, aujourd'hui, nous avons atteint le seuil de dépassement de la planète. Donc, c'est un constat. C'est ça. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ce seuil de dépassement?
Parce que tout le monde est au courant. Là, oui. À l'heure actuelle, c'est sur les radios nationales. C'est pas quelque chose d'indépendant.
Non, c'est quelque chose de connu, de renforcé par des rapports, alors que on peut ou pas se prendre le temps de lire. Mais le rapport au Club de Rome, et tu disais, c'est le fameux rapport Meadows, mais de manière plus récente, les différents rapports du GIEC, ainsi de suite. Enfin, ce seuil de dépassement, selon de quoi on parle, il est dépassé, allègrement dépassé. Et la question, c'est quel prisme on a dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à se dire, on continue notre courbe exponentielle, on le dépasse allègrement, on verra bien ce qui se passe, ou alors est-ce qu'on se rend compte que il faut agir, qu'il faut redescendre en dessous, parce que sinon on court à notre perte et c'est la voie qu'on est en train de prendre aujourd'hui.
Et du coup, donc, selon toi, c'est bien la croissance qui est bien responsable de tout cet effondrement et...
Avec un bémol sur le terme croissance, la croissance de quoi? S'il faut faire croître...
Oui, ce qu'on appelle la croissance dans le capitalisme en général, c'est-à-dire toujours faire plus que l'année dernière et toujours augmenter toutes les...
Voilà, je définirais la croissance au sens où elle n'est pas souhaitable à partir du moment où elle va puiser dans les ressources, c'est-à-dire faire croître effectivement la productivité, faire croître tous les biens et services qu'on peut commercialiser pour notre confort et pour l'économie. Maintenant, s'il s'agit de faire croître la culture, faire croître la bienveillance, faire croître l'humanité dans ce qu'elle a de bon, attention à pas faire de ce terme de croissance-décroissance...
Comme un bon et un mauvais mot.
Voilà, c'est ça.
Utiliser à bon escient.
Complètement.
Il faut un juste milieu, quoi.
C'est pas tant un juste milieu, parce que si on parle du capitalisme et du productivisme, il n'y a pas de juste milieu dans la croissance. Aujourd'hui, il faut arrêter de croître. C'est ce qui détruit la planète, donc il faut être catégorique là-dessus. On ne peut plus croître. Ce n'est pas possible. Après, c'est pas un juste milieu. C'est placer une définition sur le mot croissance. C'est qu'est-ce qu'on met, une croissance de quoi? C'est qu'est-ce qu'on met derrière le terme, en fait?
Et tout à l'heure, tu citais donc Keller, qui donc fait partie de l'association Adrastia.
Adrastia, c'est ça. Donc Arthur Keller et d'autres, bien d'autres d'ailleurs, personnalités qui aujourd'hui sont quand même bien connues de l'association, Adrastia est une association qui milite en fait pour faire connaître l'effondrement, son état, les chiffres, les rapports, et essayer de donner un éclairage à la fois simple, pédagogique, ferme et et j'allais pas dire indiscutable parce que le but c'est quand même d'en discuter, mais qui soit posé sur la situation de l'effondrement, hein, et c'est d'avoir une espèce de clarté, de lisibilité pour les gens qui aujourd'hui font leur vie dans le monde qu'on occupe, capitaliste, qui vont travailler, qui vont s'occuper de leur famille et de leurs enfants. Et Adrastia se donne pour mission d'apporter un éclairage qui soit disponible sur Internet, au travers également de conférences, au travers de vidéos, au travers de pas mal de choses pédagogiques comme ça, qui font que la mission, c'est que l'effondrement ne soit pas, et les données, hein, qui constituent l'effondrement, ne soient pas quelque chose d'inatteignable, de complexe et j'allais dire secret, mais c'est loin d'être secret, mais... Voilà, qu'il y ait une vraie prise de conscience sur qu'est-ce qu'on parle de l'effondrement, ça aboutit à quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou, hein, chez Adrastia. L'effondrement, c'est une perte de l'humanité, c'est des morts derrière, c'est des situations de violence qui peuvent arriver parce qu'un effondrement, c'est un climat sécuritaire qui se délète, c'est un climat politique complètement désuet dans lequel les gens n'ont plus confiance. C'est à ça que ça peut aboutir et qu'il y a de fortes chances que ça aboutisse. Donc Adrastia, dans son discours, ne fait pas de ronde jambe, hein. ils vont pas essayer d'être jolis sur les mots. S'il faut dire ce que c'est qu'un effondrement et ce vers quoi on va, ils le disent. Après, à nous de nous en saisir, de construire du récit et de se mettre en action.
Non, vous faites en gros du partage d'informations avec une parole libre, quoi.
Une parole libre et puis une construction
sans auto-censure, quoi, et sans...
Ouais, je suis assez d'accord. Pas d'autocensure, mais également vraiment ce qui est important, c'est une construction pédagogique, parce que s'il s'agit de parler d'effondrement, il y a plein de situations sur Internet où on peut trouver, hein, de l'information. L'ambition d'Adrastia, je crois qu'elle est sur un devoir d'alerte construit, pédagogique, qui soit à la portée à la fois du politique, de celui qui va décider, de la ménagère de 50 ans et de son environnement, qui elle aussi doit décider de comment elle doit évoluer. C'est-à-dire qu'il y a les États, mais il y a les gens aussi qui doivent évoluer. Donc Adrastia, ça...
Pour les auditeurs qui souhaitent plus connaître sur le sujet, ils peuvent rencontrer Adrastia. Il y a une antenne sur Marseille ?
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'antenne sur Marseille. Il y a plus une antenne région sud-est qui existe. Adrastia.org, si mon souvenir est bon, pour voir les différentes antennes. En tout cas, c'est très, très facile de prendre contact avec Adrastia et poser sa pierre à l'édifice dans l'association et de prendre contact avec un mouvement qui est très ouvert, très accueillant et très pédagogique, encore une fois.
C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu te contacter pour l'émission. C'est par via Adrastia.
C'est ça.
Qui m'a... proposé.
Tout à fait. Donc, comme vous étiez sur Marseille et que j'étais pas très loin, je me suis proposé pour répondre à la demande de Radio Galère, et tout à fait. Donc,
merci d'être venu. Parce que c'est un sujet où on a besoin d'avoir des personnes qui soient investies, qui connaissent le sujet, parce que c'est vaste et c'est imprécis, en fait. Il y a un peu de tout. C'est dur de se cadrer. Donc, merci d'être venu.
En même temps, ce n'est que mon point de vue et mon expérience. Hein. Je ne parle pas en expert, mais...
N'importe quel invité et n'importe quel expert, ça sera toujours son point de vue, quoi qu'il arrive.
C'est ça.
Alors, du coup, on voulait présenter les quelques associations qui étaient sur la lutte de l'effondrement. Donc, Adrastia, qui est vraiment sur la prévention, pour connaître plus le sujet, pour avoir le maximum d'informations. Et après, il y a Extinction Rebellion.
Alors, juste un petit correctif, je pense que les amis d'Adrastia seraient assez étonnés du terme qui soit dans la prévention. C'est pas totalement faux, mais c'est une vraie mise en action quand même, hein, de faire de la pédagogie sur l'effondrement. Et c'est des gens qui s'investissent et qui se lèvent le matin pour aller vraiment...
Oui, prévention, ça veut pas dire... c'est une action de la prévention.
Oui,
c'est
oui,
grâce
oui,
à ça qu'on tombe pas malade, en fait, dans la santé, par exemple.
Je me méfie, si vous voulez, des définitions galvaudées des mots. Surtout que je fais partie de la prévention dans une entreprise, et du coup l'idée pour nous quand on fait de la prévention dans une entreprise, c'est d'éviter l'accident. Alors là, Adrastia se positionne clairement sur le fait que l'accident aujourd'hui il est inévitable.
Et que... Alors, à quoi bon de faire des actions si l'accident est inévitable ?
Alors, c'était une très très bonne question. La question de l'effondrement, aujourd'hui d'un point de vue scientifique, il est inévitable, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette notion d'effondrement ? C'est-à-dire, est-ce qu'on le subit ? Est-ce qu'on l'accompagne ? C'est un peu toute la question. Si on décide de continuer dans une idée productiviste avec des œillères et de faire la politique de l'autruche, voire même de faire une fuite en avant, c'est aussi une possibilité, l'effondrement, on va le subir. C'est-à-dire qu'une décroissance, elle sera forcée, une décroissance démographique y compris, et que du coup, tout ça sera quelque chose de subi. Et subir les choses, c'est toujours beaucoup moins viable que de les organiser, que de les anticiper, et que du coup, pouvoir l'accompagner. Et du coup, j'aimais bien Arthur Keller dans sa vidéo qui disait qu'est-ce qu'on va décider de préserver coûte que coûte, donc sur quoi on va mettre notre énergie, et sur quoi on va lâcher du lest en disant, bon, ça, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Si ça s'effondre, on ne va pas gaspiller notre énergie à sauver ça.
Par donc, exemple
oh ben, je pense qu'il y a autant d'exemples de futilité qui sont du domaine du confort de notre vie moderne. Je ne sais pas, on peut se poser la question.
Climatisation, peut-être, par exemple.
Oui, c'est ça. Autant de notions de confort liées à l'habitat ou au déplacement. Voilà, est-ce que...
Ils ne sont pas nécessaires à l'homme pour vivre, en fait, c'est ça. Quoi.
Sur quoi on va mettre, si une des questions principales de l'effondrement, ça va être l'énergie. Sur quoi on va concentrer l'énergie qui va nous rester, qu'on sera capable de produire et à quelle fin aussi. Ça s'appelle accompagner un effondrement et décider des priorités. Je pense que c'est un petit peu à l'image d'une maison qui brûle. Vous avez encore 5 minutes pour sauver quelques meubles. Qu'est-ce que vous allez sauver? Vos papiers d'identité ou les jouets du gamin? Les deux s'entendent. En tout cas, les deux ont une utilité, mais il va falloir faire des choix. Et ça, on accompagne. Ou alors, on peut décider de rester dans sa cuisine en se disant que le feu n'arrivera pas jusqu'à nous. Et dans ce cas-là, laisser la maison brûler, on n'a rien sauvé, y compris soi-même. Voilà.
Un petit peu c'est vrai que c'est une belle image de la situation actuelle. Et du coup,
Extinction Rebellion, c'était ça. Pour rebondir, donc Extinction Rebellion est un mouvement quand même qui est assez jeune, qui nous vient d'Angleterre, qui est un mouvement qui est aujourd'hui dit assez. Assez de faire des marches, assez d'alerter, assez de faire de l'information autour de l'effondrement, de l'écologie de manière générale. Et il est grand temps de se mettre en action pour exiger que les politiques fassent ces changements. Donc il y a 4 demandes qui sont formulées par Extinction Rebellion. Alors j'espère, je vais faire honneur à Extinction Rebellion pour m'en souvenir des 4, mais en gros, il y a dire la vérité. Déjà, c'est une exigence d'Extinction Rebellion qui dit aux populations écoutez vos gouvernements, ils ont quelque chose à vous dire. Et ce qu'il y a à dire, bah, c'est qu'il y a un effondrement en cours, qu'il faut s'y préparer et qu'il y a différentes possibilités, différentes actions. Ça, c'est la première revendication. La deuxième, c'est de descendre, de faire la neutralité carbone. Ça, c'était une des demandes d'XR. Et puis,
c'est quoi la neutralité carbone exactement, d'ailleurs ?
La neutralité carbone, c'est de dire qu'entre ce que la planète est en capacité d'absorber comme carbone et ce qu'on est capable de rejeter ou ce qu'on est capable de recycler. En gros, c'est de dire que si on regarde le produit intérieur brut de la France en 2050, il doit être en résultat des émissions de carbone, il doit être à zéro. Alors qu'on doit se débrouiller pour que tout ce qu'on produit n'émette pas de CO2. Mais avec ça, moi, personnellement, j'ai une grosse problématique. C'est-à-dire que si on regarde les émissions de CO2 et la latence qu'il y a sur la pollution effective, en fait, c'est 40 ans. C'est-à-dire que si on pollue aujourd'hui, on va retrouver les effets de la pollution due au carbone dans 40 ans. Ça veut dire que là, on ne subit actuellement, aujourd'hui, que la pollution d'il y a 40 ans.
Donc ça veut dire que dans quel domaine la pollution
du CO2, du carbone,
l'effet de serre.
Voilà, de l'effet de serre. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on prenait cette décision de stopper nos gaz à effet de serre et notre production de carbone, on va subir encore pendant 40 ans ce qu'on a déjà pollué. Et en plus, ces 40 ans, c'est 40 ans de croissance de pollution au CO2. Donc je ne suis pas sûr, moi personnellement, et je ne parle vraiment pas au nom d'XR, hein, puisqu'on était sur XR, qu'aujourd'hui, cette demande-là est une conséquence réelle et efficace sur la notion d'effondrement et qu'elle évite quoi que ce soit. Je pense que c'est un leurre, c'est une mise en... Ça permet de mettre les gens en action, ça permet de leur donner un objectif. Mais enfin, scientifiquement parlant, ça ne me semble pas très, très cohérent. C'est malheureux, mais c'est la latence de la pollution due au CO2. Alors peut-être qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans l'effondrement, et c'est peut-être là un des seuls espoirs, c'est-à-dire que la nature nous surprendrait peut-être. En l'état actuel des connaissances scientifiques, c'est 40 ans de latence, donc ça va poser problème. Donc XR propose quand même, c'est un mouvement très jeune à majorité, alors quand je dis jeune en termes d'ancienneté, ils ont un an, mais c'est jeune en termes de population, en termes de militants, en termes d'actifs, qui sont très investis, très impliqués. et qui multiplie les actions avec une notion d'escalade. L'idée de XR, c'est de commencer à se faire la main sur des actions qui soient atteignables, accessibles avec le nombre de personnes qui sont actuellement dans l'assaut, de se faire connaître, de porter les revendications et surtout cette notion d'effondrement qui arrive derrière et de dire qu'on n'a plus le temps et qu'il faut vraiment être dans cette responsabilité à la fois politique mais aussi individuelle. Et du coup, au plus l'association fait parler d'elle, au plus il y a de militants, au plus il y a de possibilités d'action et au plus on peut aller vers une progression de l'efficacité dans l'action et aller dans une notion d'escalade jusqu'à devenir vraiment le grain de sable qui va par la masse obliger les États à venir à cette notion d'urgence climatique, écologique. Voilà, il y avait cette notion aussi de déclarer l'état d'urgence écologique et climatique. C'est une des revendications d'XR. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Est-ce que bon, il y a déjà le Parlement anglais qui a fait cette déclaration, qui est non contraignante
Qu'ils admettent qu'il y a bien une urgence climatique. Je crois qu'ils lançaient l'alerte et qu'il y a un député britannique qui a lancé une motion, mais qui n'engage à rien quand même, mais qui montre.
C'est ça, la problématique de cette notion d'état d'urgence climatique et écologique, c'est qu'elle est non contraignante en l'état actuel des choses, et surtout qu'elle ouvre la voie, par son vocabulaire utilisé, à l'état d'urgence. État d'urgence, alors on peut y mettre ce qu'on veut derrière, mais qu'est-ce que c'est qu'un état d'urgence pour un État ? C'est la possibilité d'utiliser l'autorité de l'État pour faire venir ses citoyens à des usages ou des modes d'action qu'elle impose, que l'État impose lui-même. Donc on pourrait très bien imaginer derrière une déclaration d'état d'urgence climatique et écologique, un État totalitaire. Et quand on voit aujourd'hui comment est portée l'écologie par un État, qui est de dire on fait du greenwashing, on essaie de mettre des éoliennes de partout, on essaie de mettre des énergies vertes et propres, on fait de la voiture électrique. Enfin, si aujourd'hui on s'enfonce vers un état d'urgence climatique et écologique, et que la solution qui est imposée par l'État d'urgence, entre guillemets, c'est de faire de l'énergie verte propre et du greenwashing partout, ça ne va pas beaucoup nous sauver de l'effondrement quand on voit le bilan d'une voiture électrique, par exemple.
C'est ça, par exemple, pour la voiture, on n'a pas trouvé la solution, finalement. C'est quoi pour vous c'est quoi la solution ? On sait que l'électrique, c'est pas une solution, parce que l'électricité, la production d'électricité n'est pas propre. Ensuite, tous les composés à l'intérieur, c'est une catastrophe. On peut dire que la voiture diesel, gasoil est pire ? Qu'est-ce qu'il y a un mieux ? C'est quoi
Ma réponse, après, elle va pas vous plaire.
Est-ce que ça doit me plaire ? Il n'y a pas vraiment.
La réponse est assez nette. Il faut qu'on revoie notre mobilité et la fréquence de mobilité, la durée, la longueur de nos déplacements. Est-ce qu'on a une réelle nécessité, si ce n'est pour servir le capitalisme, la notion de travail, les déplacements professionnels, les loisirs, le confort d'aller se mettre à la plage dans une île ou traverser la France pour se mettre au vert à 800 km de là et traverser le pays avec une voiture diesel ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et est-ce qu'aujourd'hui on a encore ce luxe ? Ou est-ce que la question de la mobilité doit être pensée en termes justement, et là on peut y venir, est-ce qu'on ne doit pas penser à une décroissance de la mobilité et se dire que qu'elle soit électrique ou qu'elle soit diesel, qu'elle soit en autocar ou en train, de toute façon aujourd'hui c'est une énergie qu'on dépense pour une mobilité, et cette énergie on doit l'économiser, on doit la repenser, on doit l'attribuer à des actions efficaces. Donc réduire la mobilité, par exemple, à ce qui est strictement nécessaire, comme le transport de l'eau, le transport de la nourriture pour pouvoir nourrir et abreuver tout le monde. Mais la mobilité, je dirais, d'usage pour servir l'industrie, le capitalisme, l'entreprise, aujourd'hui, on n'a plus ce luxe. Je me demande même si d'ailleurs on l'a déjà eu. En tout cas, on l'a pris. On n'avait peut-être pas le droit, on a pris le gauche, on y est allé, on a fait des voitures, on a fait des routes, on a tout détruit sur notre passage, la forêt, les prairies, les animaux qui vivaient dessus, on a tout enlevé, on s'est dit chouette, la mobilité, on y va, on se déplace, on est des humains, on a la technologie et go, on va faire plein de choses. Sauf que peut-être qu'à posteriori, en regardant les études scientifiques et là où on en est, on l'avait peut-être pas ce luxe, ce serait peut-être temps de nous en rendre compte, c'est-à-dire que la vraie solution, c'est de revoir la mobilité et d'arrêter de se déplacer tout, pour tout, partout.
Dur. Et vous avez prévu quoi vos prochaines vacances ?
Je risque de traverser un bon quart de la France.
D'accord.
En famille. Et c'est intéressant la question. Ça amène la question de la culpabilisation de l'individu par rapport à tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait individuellement et,
Ma question, ce n'est pas de culpabiliser. C'est dur de. Dans tout ça, on sait un peu ce qu'il faut faire, mais on ne l'applique pas. C'est dur. Une notion de faire du zéro déchet, d'accord. Tout ça, c'est des choses au quotidien qui sont simples. Mais pour les voyages, je ne vais pas changer d'arrondissement. Bien sûr que je vais prendre un train, une voiture pour partir ou un avion de temps à autre.
C'est intéressant, ça ouvre là. Il y a plusieurs choses derrière la question, derrière ce trait-là. La première chose, c'est l'environnement capacitant. Moi, j'ai une profession d'ergonome et on dit que pour qu'un salarié puisse faire son travail correctement, avec bien-être et en bonne santé, il faut que l'environnement soit capacitant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette tout à la disposition pour que on ne soit pas contraint dans l'action. Mmh. Or là, tout ce qui est mis à disposition à disposition de l'homme blanc occidental, c'est surtout un environnement consumériste, c'est-à-dire que c'est des milliards d'euros qui sont dépensés à des fins publicitaires pour inciter à faire tout ce qu'on ne devrait pas faire, c'est-à-dire inciter à consommer, inciter à aller au McDo et à aller prendre le petit jouet que le gamin va utiliser 3 minutes et laisser dans son étagère pendant 3 ans, inciter à faire du jetable, inciter à partir en vacances, des budgets publicitaires qui à l'époque estivale sont décuplés pour des promos pourcentage de maisons là-bas avec la piscine et tout le confort d'un 4 étoiles, inciter au voyage parce que là ici il y a 20% de réduction sur le vol à destination de Pétaouchnok, et que tout ça fait que la lutte entre la cause que peut défendre un individu dans son mode de vie et l'environnement qui le rappelle à l'ordre du consumérisme tous les jours et ces milliards qui sont dépensés, la lutte est quand même assez inégale. C'est-à-dire que...
Nous qui créons cette demande, ils font pas de la publicité. Ils font de la publicité ils savent que ça va prendre.
Ah, c'est bizarre.
Il n'y a pas la publicité du chauffage en ce moment.
Avant que des cigarettiers mettent en place le tabac et tout le lobbying du tabac, est-ce que vous pensez vraiment que les humains voulaient fumer ? Est-ce que c'était une demande humaine de dire « Ah bah tiens, on aimerait bien venir à la cigarette, c'est un truc chouette, on a envie de fumer » Ou est-ce que vous pensez que c'est des lobbyistes qui, à un moment donné, ont dit « Waouh, on a des thunes à se faire là, on va faire une grosse campagne de pub et en plus, on va même mettre les femmes en valeur avec une cigarette à la bouche pour dire « Regardez, c'est chouette de fumer, la femme classe moderne, aujourd'hui, la cigarette au bec avec son petit filtre en plastique au bout qui se tient bien, qui se tient droite, il y a un phénomène d'imitation et c'est classe quand même de fumer. » Il faut quand même regarder ça. Alors, je ne veux pas complètement déculpabiliser l'individuel. On a vraiment un mode d'action à mettre en face de nos pensées. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire et tout rejeter la faute sur le contexte, mais il faut quand même mettre en perspective ça. Il y a un besoin qui est créé par le capitalisme à grands coups de panneaux 4x4 légaux et 4x4, y compris ceux qui sont posés de manière illégaux dans les petits villages, et pour essayer de faire en sorte qu'on fasse tout le contraire de ce qu'on devrait faire.
Puis l'important quand même, c'est aussi de s'en rendre compte, quoi, déjà. C'est déjà un premier pas en avant vers...
Oui, et puis surtout...
De s'en rendre compte, même si c'est vrai que... Après, oui, voilà, justement, même si, comme vous dites, qu'il ne faudrait pas avoir de déplacement, enfin limiter les déplacements, tout ça, ce que je suis d'accord, c'est que... Après, derrière, personne pourra d'un coup arrêter de faire 200 km pour travailler ou des choses comme ça. Mais cette personne, il ne faut pas forcément qu'elle culpabilise, parce que c'est important, c'est au moins qu'elle s'en rende compte de tout ce que ça a créé sur la société, quoi, de toutes les conséquences que ça a de rouler 200 km par jour.
Et puis pour compléter, je pense que est-ce que c'est l'action individuelle qui est la plus efficace au final pour stopper la destruction du vivant ? Non, en tout cas pas aujourd'hui avec l'ampleur qu'elle a, pas aujourd'hui avec la mobilisation de masse. Juste pour prendre quelques exemples, alors les puristes me reprendront sur les chiffres et je les invite à le faire d'ailleurs, ce serait intéressant, mais je sais que l'eau potable que l'on consomme pour boire, c'est-à-dire que la nécessité de la potabilité de l'eau, c'est 10% de l'eau consommée. Ça veut dire que la personne à qui on dit gentiment il faut arrêter chez nous les robinets, arrêter les douches courtes, tout ça, je fais référence à Derek Jensen avec cette vidéo, là, arrêter les douches courtes. Enfin, c'est pas qu'il faut fondamentalement se remettre à gaspiller, c'est pas ce que je dis l'impact de l'action individuelle sur la consommation et la destruction du vivant, elle n'est pas là. L'impact, c'est aujourd'hui l'industrie de masse, le productivisme de plein de choses dont on n'a pas besoin, et prenons un exemple, une bouteille de coca, un litre, c'est 7 litres d'eau. Est-ce qu'il vaut mieux arrêter de faire couler un petit peu d'eau quand on se lave les mains ou quand on se brosse les dents, ou est-ce qu'il faut faire un vrai stop à l'industrie du soda et comme Coca, et arrêter par exemple, alors, je ne vais pas faire d'antipub, mais clairement si, pourquoi pas en fait, et de dire non mais voilà, ça détruit, clairement il faut aller contre et dire clairement c'est ça qui détruit, donc stop. Ce sera plus efficace d'arrêter une industrie qui détruit en masse comme les mines de charbon en Allemagne et dont il y a une action militante qui s'est faite la semaine dernière.
D'ailleurs,
et
c'est Extinction Rebellion qui...
Bon, alors, je n'ai pas de notion d'association d'Extinction Rebellion
parce
sur
que
cette
c'est
action-là.
Européen,
mais,
quoi. C'est quand même une...
Mais c'était en tout cas multi-associatif, c'était porté voilà. Par plein de collectifs européens.
C'est international, quoi. Comme
tout à fait, c'était une mobilisation internationale. Et là, l'idée, vraiment, c'était de pointer du doigt que ce n'est pas une action individuelle qui va changer les choses. Mais regardez cette mine de charbon qui couvre l'ensemble d'une ville comme Marseille en termes de surface. C'est ça qui détruit. C'est pas la petite personne qui va faire son petit feu pour se chauffer parce qu'elle n'a pas aucun autre moyen de chauffer sa maison, parce qu'elle a hérité d'une maison avec une chaudière, un poêle à bois et ainsi de suite. Je veux dire, voilà. Et c'est là où il faut arrêter, c'est le capitalisme, la société dans son consumérisme et l'industrialisation de masse.
On va faire un instant de pub musicale, une pause musicale choisie par Théo, un groupe marseillais, c'est ça ?
À mon souvenir, je ne veux pas être décisif encore là, j'ai un petit léger doute, mais
moi,
il me semble.
C'est une découverte de ce soir, parce qu'on l'a prévenu une minute avant l'émission de cette pause musicale. Mais il a trouvé une musique associée à la thématique, et marseillaise normalement, HK, les Saltimbanques.
On lâche rien.
On écoute.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
sur Écoforum et on est sur la deuxième émission sur l'effondrement. On rentre sur le sujet, on arrête d'être brouillon, on explique quelles sont les luttes, comment on peut l'investir. Donc nous avons deux Théo ce soir. Théo qui est le créateur de ces trois émissions.
Bonsoir. Moins, bonsoir.
Et Théo Toulon qui est le représentant, qui nous aide à parler de cette thématique et qui appartient à quelques associations.
Voilà, je fais.
Ça va comme présentation.
Ouais, c'est ça. Non, mais j'aimerais vraiment pas insinuer que je parle en leur nom parce que c'est vraiment pas le cas. Oui. On s'est absolument pas concerté. C'est plus moi la vision que j'ai des associations dont je fais partie que je vous fais partager. Voilà. Ce soir.
Donc là, l'objectif, c'est vraiment, si vous êtes auditeur, que le sujet vous intéresse, vers quelle association se tourner. Donc on les a bien expliqué en première partie d'émission, les associations. Et là, c'est comment lutter.
Oui.
Il reste quand même, on n'avait pas encore présenté Deep Green Resistance.
Deep Green Resistance, de son acronyme DGR.
DGR, la troisième association.
C'est ça, qui elle nous vient des États-Unis, portée sur place par Derek Jensen et Lier Case, si je prononce bien, qui ont écrit un livre qui s'appelle Deep Green Resistance, un mouvement pour sauver la planète, si je me souviens bien. Alors, Deep Green Resistance, c'est sûr, mais le sous-titre, faudra vérifier, qui en France a été traduit par les éditions libres et qui est en deux tomes, alors que le livre original est en un tome. Hein, faut le savoir parce que le deuxième tome est attendu, très attendu là pour fin août, début septembre si mon souvenir est bon.
D'accord.
Et du coup les Français qui maîtrisent mal l'anglais comme c'est mon cas attendent beaucoup de ce deuxième tome qui est pas mal expliqué à l'intérieur de DGR par ceux qui l'ont lu en anglais, donc on en connaît un peu la teneur, mais voilà, donc c'est les deux livres référence en France, du moins les deux tomes de référence. Et puis sinon vous avez la parole de DGR aussi qui est assez synthétisée finalement dans deux livres qui s'appellent L'écologie en résistance, le tome 1 et le tome 2, qui sont des petits livres d'une cinquantaine, soixantaine de pages, à mon souvenir, je ne veux pas me tromper sur le nombre, mais peu importe, et qui ont une représentation finalement assez synthétique de la pensée des deux tomes principaux de DGR, qui se trouvaient aussi aux éditions libres, mais je pense que votre libraire local saura vous les commander avec grand plaisir aussi, faisant marcher le local de toute façon.
Et le prix est le même dans toutes les librairies. C'est bon à savoir, c'est un prix fixe.
Bon, c'est ça.
Voilà, donc vous pouvez aller dans votre...
La particularité de DGR, c'est qu'ils sont posés sur l'écologie, alors l'écologie, ce qu'on appelle l'écologie profonde, et donc forcément ils viennent sur la notion d'effondrement, et il y a aussi deux, trois autres thèmes qui sont quand même sous-jacents au mouvement, c'est le féminisme. C'est un mouvement qui se veut profondément féministe dans son organisation interne, antiraciste, évidemment, et c'est vraiment, alors antispéciste, je ne veux pas être certain de ça, je ne veux pas dire de conneries, mais en tout cas, il y a... Dans les livres, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le racisme et le féminisme sont clairement mêlés à la cause écologique et à l'effondrement, en disant que si militantisme doit y avoir et mise en action doit y avoir, il faut que nous, au sein de notre mouvement, on se débarrasse du patriarcat et de ce qui a souvent fait éclater les luttes et de ce qui a aussi été la cause en partie de pas mal de soucis sur la planète. Donc du coup, la femme mise en avant et est défendue contre le patriarcat, c'est quelque chose qui est porté notamment dans le mouvement par l'IRCES qui en a quand même pas mal écrit et partagé par l'ensemble du mouvement. Je pense que ce sont trois lignes rouges qui ne sont à ne pas franchir dans ce mouvement. Voilà, il faut être antiraciste, féministe et écologiste. Voilà.
Ça, des sujets assez tendance, quoi.
J'espère.
Et du coup, vous exprimez par quel type d'action chez DGR ?
Alors, DGR a une particularité, et notamment dans l'écologie profonde, c'est qu'ils ont, au travers des livres, porté un idéal à atteindre en termes de militantisme et d'action, c'est la guerre écologique décisive, qui est parfaitement décrite dans les livres. Alors, les termes sont importants. Déjà, on parle d'une guerre. C'est-à-dire que le constat qui est fait par DGR, c'est que le capitalisme et le système tel qu'il est construit aujourd'hui dans sa civilisation, dans la représentation de la civilisation que se fait DGR, c'est que c'est une guerre qui est portée aux vivants. Et donc, le militant de DGR est en guerre contre la civilisation productiviste et industrielle. Et cette guerre est principalement écologique parce qu'elle détruit le vivant. et que donc elle ne peut pas être autre que pour sauver le vivant, et elle doit être décisive, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas la défaite. Il faut l'apporter parce qu'on n'a que ça comme solution face à l'effondrement. Donc il faut absolument la gagner. Et pour ça, ben, une stratégie est proposée. C'est pas la seule, c'est peut-être pas la meilleure, mais elle a le mérite d'être construite, posée, fondée au travers du livre DGR. Encore une fois, en deux tomes, hein, en France, le deuxième tome qui est justement porté sur l'action est très attendu. Mais avec une méthodologie de dire voilà, on est militant. Déjà, on reconnaît que le système en face et la civilisation est d'une violence inouïe face aux vivants. Déjà, il y a cette notion de violence qui est portée. 200 espèces qui disparaissent chaque jour. C'est hyper violent. L'esclavagisme porté pour l'épuisement des ressources, c'est violent. C'est des gens qui meurent. Qui meurent parfois, même dans la souffrance, sur de longs mois. C'est d'une violence inouïe. Hein. Du coup, la notion de la violence n'est pas du tout exclue dans le discours de DGR. Et surtout, on décrit comment le système est violent. Comment cette civilisation a été violente depuis bien longtemps sur le vivant et comme elle a été prédatrice. Ça, c'est assez bien porté et c'est surtout bien sourcé, bien documenté dans le livre. C'est à la portée vraiment de presque tout le monde, j'ai envie de dire, de lire ce bouquin. Sauf qu'il nous fait violence à nous dans l'intellect quand on le lit parce qu'on prend conscience de plein de choses quand même. Et donc, du coup, une fois qu'on s'est mis dans ce contexte-là et qu'on l'a accepté ou pas, d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé d'accepter le constat qui est proposé par DGR. Moi, je l'accepte. D'autres le déclineront sous d'autres formes ou remettront en question certaines choses. C'est qu'est-ce qu'on fait face à cette violence-là et qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre. DGR dit il y a deux modes de combat. Il y a le premier, le combat above ground et le combat underground. Above ground, c'est toute la mise en visibilité de DGR, c'est l'association portée, visible, ses bouquins, son explicatif, ses méthodes de combat décrites dans les livres et le soutien que DGR peut apporter à tous les militants qui pourraient se trouver dans une difficulté logistique ou judiciaire ou une difficulté quelconque. Et qui sont dans la cause. Donc ça, c'est toute la partie visible de l'iceberg, avec cette mise en sûreté du fait que face à la justice, face à l'État et face à l'ennemi, doit toujours rester cette visibilité associative DGR avec son enseigne, son message, le récit qu'elle porte. Et pour ça, il y a une politique de sécurité qui est très importante, avec la deuxième notion du combat, qui est le combat underground, avec laquelle il faut faire une frontière nette et précise.
Alors, c'est la même association qui utilise deux systèmes d'intervention différents.
Plus subtilement, il y a une association officielle qui défend une position, qui défend une méthodologie, une guerre écologique décisive. Et derrière, tous ceux qui se seront appropriés le message de DGR, d'accord, avec la méthodologie, se mettront en action indépendamment de la vie associative et prendront leurs responsabilités.
C'est une scission de l'association, c'est pour pas mettre en jeu la vie de l'association.
On fait une barrière de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le militant qui se met en action de manière ouverte et qui va porter un message, et celui qui va atteindre un objectif qui est décrit dans la guerre écologique décisive, qui va se mettre en action pour atteindre cet objectif, et qui pour ça, parfois, peut se mettre dans des notions d'illégalité ou pour des raisons d'organisation face à la répression qui peut être à la fois du renseignement comme de la répression directe, va devoir répondre à une justice ou répondre de ses actes, qui d'ailleurs l'assumeront, hein, mais qui ne mettront pas en péril le message porté ouvertement. Donc en fait, les gens qui portent DGR de manière ouverte et above ground ne connaîtront pas et ne connaissent pas les militants qui aujourd'hui sont underground et qui s'approprient le message et qui eux ont pour objectif de porter cette guerre écologique décisive avec une notion d'efficacité, c'est-à-dire concrètement comment on empêche la civilisation de détruire le vivant.
Ah, ça c'est intéressant. Et quels sont les objectifs à atteindre ?
Eh bien, il est à la responsabilité de chacun de regarder selon ses moyens. C'est-à-dire que la personne qui pourra réunir autour d'elle un petit groupe de 5-10 personnes et de manière très modeste choisira des objectifs modestes avec pour notion de se dire l'objectif est atteignable. On va y aller progressivement, c'est-à-dire qu'on ne se fixe pas quelque chose de complètement démesuré pour lequel on va se faire arrêter au premier coup et finir la balade. Surtout, on essaie d'être efficace. Donc du coup, des petits groupes qui vont se former et qui vont naître à 5-10 personnes vont faire des actions pourquoi pas de sabotage de publicité. Alors il y en a qui le font en dehors de DGR, je pense aux casseurs de pub par exemple, ou je pense à d'autres mouvements qui sont sur du sabotage du capitalisme dans son mode de corruption de la pensée et de publicité. Et puis après, derrière, un groupe qui s'organisera de manière plus construite, qui aura plus d'ancienneté, où les membres seront plus soudés, une politique de sécurité plus portée et plus aboutie, viseront des objectifs qui seront à leur imagination. Mais qu'est-ce qui fait tourner aujourd'hui le capitalisme? C'est les énergie. On peut très bien imaginer des groupes qui pourraient se dire bon, bah, si je veux détruire dans mon secteur, si je veux détruire dans ma localité la pollution aujourd'hui qui existe, eh ben, quelle est l'entreprise qui pollue le plus? Comment je lui coupe les vivres d'une manière soit énergétique ou en approvisionnement de matières premières ou en approvisionnement de travailleurs? Je peux aussi organiser une rébellion sociale au sein de l'entreprise et faire du travail de sape intellectuelle pour venir faire en sorte de créer une discorde au sein de l'entreprise et de dire bah, voilà, j'ai amené à la rébellion des gens qui ne sont peut-être pas d'ailleurs sensibilisés à DGR, mais qui, par un travail d'intelligence, vont faire en sorte que l'entreprise socialement est déstabilisée et va s'arrêter de produire pour une question de grève qui passera complètement inaperçue dans le message écologique. Mais n'empêche que l'objectif derrière était bien de faire arrêter la production d'une entreprise par les moyens qui sont bons à saisir et à la portée de ses militants.
Là, donc tu viens d'aborder un sujet qu'on avait vraiment envie d'insister, le violent et le non-violent. Il y avait un petit passage que vous vouliez faire passer sur Jean Ziegler.
Alors le passage pourrait peut-être venir juste un petit peu après parce que peu importe. Mais il aborde pas lui directement la question de la violence et de la non-violence. Alors on peut l'aborder au choix avant ou après le passage de Jean Ziegler. Ça, mais peu importe, on peut.
Bon, comme tu veux. On peut en parler maintenant, du coup.
En l'absence de la régie, on peut peut-être revenir sur la question de la notion de violence et non-violence. Du coup, c'est une vraie question qui est portée au sein de quasiment tous les mouvements que je viens de citer, notamment XR et DGR. Qu'est-ce que la violence? Déjà, DGR pose le constat de la violence qu'elle a en face. Donc déjà, la violence, elle n'est pas quelque chose d'absente. Elle est très, très présente et nous, on bénéficie des effets du capitalisme en tant qu'homme blanc occidental, enfin homme blanc avec un grand H. Hein. Donc du coup, nous, on bénéficie plutôt du confort que nous apporte la violence qu'on inflige aux autres. C'est-à-dire qu'encore une fois, je vous le disais en off tout à l'heure, mais l'électricité que l'on a est à ta majorité nucléaire et l'uranium et le plutonium qu'on extrait pour nos besoins guerriers et énergétiques, on va les piller à l'Afrique et on fait des dégâts considérables, y compris humains et y compris écologiques là-bas. Donc déjà, nous, on bénéficie du confort, on ne la voit pas, la violence, elle est bien cachée de nos yeux, mais le système est ultra-violent, y compris dans ce qu'on profite. Donc du coup, la réponse, est-ce qu'elle se peut être violente? Moi, je fais partie des gens qui disent... Je ne prêche pas la violence, je ne dis pas il faut être violent. Mais je serai dans une demi-mesure qui est de dire le dogme de la non-violence, à l'inverse, de dire je veux absolument rester non-violent parce que c'est ma ligne rouge que je ne veux pas franchir, à mon sens, sert l'État. L'État ou l'ennemi, enfin de manière générale, puisque c'est pas forcément l'État en lui-même qui est l'ennemi, mais je dirais le capitalisme, système. La civilisation, le système, peu importe le mot qu'on y met derrière, celui qui détruit, en tout cas, ça le sert de parler de non-violence, parce qu'au final, c'est à un moment donné cette violence-non-violence qui permet l'efficacité ou la non-efficacité. Je ne dis pas que toute action non-violente est inefficace, ce n'est absolument pas mon propos, mais je pense que face à la puissance de destruction de l'ennemi, et la vitesse à laquelle les populations animales, végétales, et y compris les humains et la souffrance subie par les humains est telle qu'à un moment donné, la réponse va forcément nécessiter une efficacité telle qu'elle ne pourra pas, à un moment donné, se porter que par la non-violence. Elle va poser.
Donc vous êtes pro la violence, finalement?
Non. Non, je dis que cette non-violence ne doit pas être un dogme, qu'à un moment donné, on peut s'ouvrir la possibilité de la violence, et je rejoins DGR dans l'idée que la violence doit être portée par des gens qui sont à la base non-violents, parce que la violence ne doit pas être la finalité en soi. Quelqu'un qui serait violent dans un mouvement comme le nôtre serait ingérable. Il faut que ce soit des gens non-violents parce qu'ils vont border la violence. La violence uniquement à sa stricte efficacité, avec un minimum de dégâts pour l'efficacité qu'elle recherche.
Et concrètement, c'est quoi cette violence?
Ça pose la question de qu'est-ce que c'est la violence? Est-ce que détruire un bien, c'est violent? Est-ce que la violence commence à un moment donné où on porte atteinte à une personne? La question de la violence dans sa définition n'est pas tranchée dans les mouvements. elle fait débat. Chez XR, par exemple, qui se dit un mouvement non violent, on trouve, et pour moi-même en avoir interviewé, des gens qui disent mais si on fait une destruction de bien, c'est pas violent, on a fait de mal à personne, surtout que le bien n'appartient pas à une personne, mais à une entité, à une personne morale, à quelque chose qui appartient au capitalisme. Et donc, si je le détruis, je ferai de mal à personne. Et donc, je m'autorise cette violence-là de destruction. Mais est-ce qu'au-delà, c'est admissible ? Bon, il y a plein de gens qui sont réputés pour être non violents dans l'histoire humaine. On parle de Martin Luther King, on parle de Gandhi, on parle de plein de personnages comme ça. Pour autant, derrière ces personnages, il y a plein de gens qui ont poussé à ce qu'eux soient mis en visibilité parce que derrière, il y a eu une violence inouïe d'action et d'activisme. Je parle pour les droits humains, je parle pour les suffragettes notamment. Enfin, il y a plein d'histoires... où on a mis en lumière des personnages non violents parce que ça arrangeait bien le système de mettre en lumière que le militantisme il est non violent, que c'est comme ça qu'il a gagné. Mais si on fouille et on creuse un petit peu, il y a des gens là-bas en Amérique du Sud qui ont lutté contre l'apartheid, qui n'ont pas toujours été non violents par exemple, et pourtant aujourd'hui on est plutôt tendance à les classer dans les gens non violents. Donc il faut bien regarder l'histoire dans son détail, ne pas s'arrêter à ce qu'on nous en sert politiquement. Et attention, encore une fois, je ne prêche pas la violence, je ne dis pas qu'il faut être violent, je dis qu'à un moment donné, si on veut être efficace, peut-être que cette question de la violence, de la non-violence se portera, et jusqu'où on est prêt à aller en tant qu'entité, mais aussi qu'en tant qu'individu. Tout le monde n'est pas fait pour la violence, tout le monde ne sera pas violent, tout le monde ne détruira pas, et encore bien heureux, il y a plein d'autres modes d'action qui sont efficaces. Le phénomène de masse, par exemple, encore qu'aujourd'hui, il n'est pas atteint. C'est pour ça qu'il n'est pas efficace, parce que la vraie masse, celle qui contraint un État, celle qui contraint une entreprise, celle qui contraint les destructeurs du vivant à ne plus le faire, cette masse-là n'est pas suffisante pour atteindre l'objectif. Il y a peut-être un petit peu dans le mouvement social, et c'est marrant que le mouvement écologique ce soit pas, il soit pas encore, mais finalement les occupations d'usines par des salariés mécontents, ils arrivent à arrêter une entreprise. Donc ils le font pas à des fins écologiques, ils les font à des fins sociales, mais à un moment donné, quand ils font un blocage d'une usine, ils font un blocage d'usine. Imaginez maintenant un groupe militant qui fasse un blocage d'usine, comment ce serait perçu ? Est-ce que ce serait perçu comme violent ? Et y compris par les salariés qui eux travailleraient dans l'usine, et comment ils verraient l'intrusion de militants qui voudraient arrêter la pollution par cette usine, comment ils verraient l'intrusion de ces militants dans leur outil de travail alors qu'eux sont là pour gagner leur salaire. Est-ce que ces gens-là, ces salariés-là, verraient les militants comme violents ou pas ? Et est-ce que les patrons verraient ces militants comme violents ? Est-ce que l'État verrait ces gens comme violents ? Et est-ce que eux-mêmes qui font cette action-là se verraient comme violents ou légitimes par rapport à l'action qu'ils sont en train de mener ? Et la menace, rappelons-le, cette émission, c'est sur l'effondrement.
C'est ça.
Et donc, du coup, c'est pour toi surtout la nécessité. Ah oui, donc en fait, pardon, on va passer maintenant l'extrait de Jean Ziegler pour Thinkerview.
Et maintenant, une dernière question qui n'est pas une question, qui est laisser un conseil pour les jeunes générations, quelque chose d'impérissable sur Internet.
Insurgez-vous. Il n'y a pas de... Vous avez la chance, puisque vous écoutez cette émission, de vivre en démocratie. Et Voltaire a dit « la liberté ». Est l'unique bien qui ne s'use si on ne l'utilise pas. Si on ne l'utilise pas. Combattre l'ennemi, connaître l'ennemi, si vous êtes en études, etc. Connaître l'ennemi, faire les meilleures études possibles, connaître le plus de choses de ce monde, démasquer l'oppresseur, détruire l'obscurantisme, ce néolibéralisme, obscurantiste qui essaye de priver l'homme de sa propre histoire et qui sert encore malheureusement de théorie de légitimité pour la dictature mondiale des oligarchies du capital financier globalisé, connaître l'ennemi et ensuite tout faire solidairement là où vous pouvez pour détruire cet ennemi, pour combattre cet ennemi. Être digne des privilèges incroyables qui sont les nôtres, vivant en démocratie, vivant librement, vivant toute connaissance de cause, vivant bien nourri, capable de recevoir des émissions comme celle-là, ben ça crée des privilèges incroyables qui nous engagent de ne pas sortir de l'histoire, de ne pas se laisser paralyser, de ne pas se laisser influencer, mais se battre.
Jean Ziegler, merci.
Merci à vous.
Merci Théo d'avoir choisi ce petit passage qui était vraiment sur la notion de liberté, de choix. Pourquoi avoir choisi ce passage en fait ?
Par la posture de la personne qui nous le délivre. C'est quelqu'un qui fait partie de l'ONU, c'est quelqu'un qui a été rapporteur de la faim dans le monde auprès de l'ONU et qui a une vision du monde qui n'est pas à remettre en cause. Alors c'est sa vision, on est d'accord, mais n'empêche que quand il parle, il ne peut pas se défaire de cette étiquette de représentant de l'ONU. Et l'ONU aujourd'hui est un organisme qui a finalement tellement peu de pouvoir sur les États et sur le capitalisme financier, sur le fait qu'une entreprise aujourd'hui soit multinationale et qu'elle puisse se passer des lois locales d'un État ou même d'une région, de lois européennes si elle le veut, elle peut déménager son siège. Un appel comme ça de quelqu'un de l'ONU qui nous demande de nous mettre en action pour détruire ce capitalisme-là, ça ne doit pas rester vide de sens. C'est un homme politique qui a une expérience, qui a vu des gens mourir, qui a vu des gens mourir de la faim, qui a vu concrètement ce que c'est que la souffrance humaine et qui aujourd'hui est conscient qu'on va à l'effondrement. Je vous invite à écouter l'émission de Thinkerview complète avec le discours de Jean Ziegler qui est quand même assez parlant et qui nous dit « mettez-vous en mouvement ». Mais alors si les gens qui sont à la tête de l'ONU, qui ont toutes les institutions possibles pour regarder d'une manière globale comment fonctionne le monde, si on n'écoute plus ces gens-là et si on ne se saisit pas de cet appel à se mettre en action pour finalement nous sauver nous-mêmes, c'est même pas pour sauver une tierce personne et dire nous, on n'a rien à voir avec ça, on fait acte de charité. Ça va plus loin que ça, c'est l'humanité complète qui doit se mettre en action et d'écouter des messages de gens comme ça qui le portent. Alors il n'est pas le seul, il y a plein de rapports aujourd'hui qui sortent et qui nous avertissent de l'effondrement qui est à venir. Mais ce message-là de Jean Ziegler, je le trouve particulièrement intéressant parce qu'il nous dit « mettez-vous en avant, connaissez l'ennemi et combattez l'ennemi ».
Bah, ce sera un peu les mots de la fin. Merci d'être venu. Tu veux les répéter une dernière fois pour comprendre qu'est-ce qu'on doit faire alors ?
Alors, je pense qu'il faut bien connaître l'ennemi, maîtriser l'ennemi et le combattre.
Ouais. Merci d'être venu. C'était une super émission. J'espère que vous avez mieux compris l'effondrement. Théo, tu as mieux compris. Bah, toi, tu le connaissais bien déjà.
Non, je connaissais vaguement aussi, hein, quand même. J'étais quelqu'un d'assez novice. Donc, c'est vrai qu'après, en faisant ces émissions, ces rencontres et tout ça, je commence à avoir une plus grosse idée de ce qu'est l'effondrement. Ouais.
Voilà, on vous attend pour la troisième émission qui sera plutôt sur le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut envisager le futur post-effondrement ?
La notion de récit.
La notion de récit, tous les imaginaires qui... Parce que là, c'est dans l'imaginaire. Donc voilà, j'espère que vous serez présents. C'est la semaine prochaine à 19h. Merci bien, bonne écoute. Au revoir.
Merci, au revoir.